De Gaston Leroux, Les aventures de Chéri Bibi, tome 3, Pallas et Chéri Bibi. Chapitre 1, Les soupirs de Pallas. Sur la grève embrasée, devant le flot redoutable où glissaient les requins affamés, gardiens de sa prison, Pallas était étendu. Le forçat semblait une bête lasse, au repos. Au fait, il avait profité de la relâche de 10 heures pour venir chercher là un peu de fraîcheur et de solitude, entre deux rochers qui l'isolaient du reste du bagne. Ah, s'isoler, ne plus entendre, ne plus voir, ne plus penser. Mais comment Pallas eut-il fait pour ne plus penser à ce qu'il avait vu le matin même, à ce qu'il avait été forcé de voir? Ce matin-là, il y avait eu double exécution, un terrible exemple nécessaire de la bonne besogne pour Pernambouc, le bourreau du bagne, et pour son aide, Monsieur Désiré. Horreur! Oh, horreur! Pallas en frissonnait encore. C'était un corps encore jeune, plein de force et de souplesse. Appuyé sur les coudes, le menton dans la coupe de ses mains, il semblait faire quelque rêve impossible. Le large chapeau de paille jetait son ombre sur l'ombre de son regard profond qui glissait vers les lointains horizons. Ce que l'on apercevait de sa figure rase et de son profil était un dessin ferme et plein de finesse. Malgré la puissante empreinte du bagne qui a tôt fait de vieillir les plus jeunes, cet homme ne paraissait guère avoir plus de 40 ans. C'était ce mélange de force et de délicatesse qui lui avait fait donner ce surnom de Pallas, par lequel on désigne dans le langage du pré, bagne, ce que la nature a doué d'une prestance généralement appréciée des dames. Il fait son Pallas. Mais le vrai nom de Pallas était célèbre dans les fastes criminels depuis plus de 10 ans, époque où le jury de la Seine l'avait condamné à la peine de mort, lui, Raoul de Saint-Dalma, jeune homme d'excellente famille, qui, après avoir gaspillé son patrimoine, avait été accusé d'avoir assassiné son bienfaiteur pour le voler. Il avait dû sa grâce à sa jeunesse, au désespoir de sa mère, morte de douleur, et aussi à l'acharnement avec lequel il avait crié son innocence, en dépit des preuves qui semblaient l'accabler. Et maintenant, il était au bagne, à perpète. « Tu soupires, Pallas ?» L'homme tressaillit et tourna la tête. Aussitôt, des rires grossiers se firent entendre, et il aperçut, assis autour de lui, le Parisien, Fric-Frac, le Caïd et le Bêcheur. Sa rêverie l'avait emporté si loin qu'il ne les avait pas entendus venir. Ces 4-là étaient ses pires ennemis, ceux qui n'avaient jamais désarmé, et à cause desquels, dernièrement encore, il n'avait pas hésité à se faire enfermer pendant des mois dans l'île du silence, l'île Saint-Joseph, toute proche, qui est réservée à ceux qui ont commis des crimes au bagne ou qui se sont révoltés contre la chiourme. Pour ne plus voir ces 4 monstres qui le poursuivaient de leur tracasserie diabolique ou de leur plaisanterie hideuse, il avait cherché querelle à un artoupan, garde-chiourme, et l'avait gravement menacé, ce qui lui avait valu, quelque temps, le régime terrible de l'île voisine, l'internement dans un édifice spécial, où les surveillants eux-mêmes ne doivent communiquer avec les prisonniers que par geste ou par écrit, jamais par la parole. Et depuis qu'il était sorti de son encellulement, il le regrettait, et cela d'autant plus que Chéri Bibi, le formidable bandit qui depuis de si nombreuses années avait épouvanté le monde, mais qui avait pris Pallas en amitié, n'était plus là pour faire taire d'un froncement de sourcils l'abominable Fric-Frac ou le Parisien lui-même. Oh, il n'était pas loin, chéri Bibi. Il était enfermé, pour le moment, dans l'établissement central, derrière des barreaux à travers lesquels Pallas, un matin qu'il était de corvée de balayure, avait pu l'apercevoir et échanger avec lui quelques signes mystérieux d'amitié. Ça avait été rapide, du reste, car le chef des Artoupans avait pénétré dans la cour, et aussitôt, de toutes les cellules juxtaposées et grillées, de telles bordées d'injures avaient été déversées que le malheureux garde-chiourme avait rappelé la corvée, fait évacuer la cour par le service des cuisines qui apportait la soupe et déclaré dans sa fureur qu'il laisserait les fagots crever de faim dans leur pourriture pendant 3 jours. Au-dessus de ces menaces et de tout cet affreux tumulte, Pallas entendait encore le rire énorme, le rire gigantesque de chéri Bibi. Ce n'était ni le Parisien, ni Fric-Frac, ni le Caïd, ni le Bêcheur qui eussent risqué ainsi de se faire mettre au cachot. Il se la coulait en douce, assez bien vu des autorités qu'il renseignait sournoisement sur l'état d'esprit ou sur les projets d'évasion de leurs camarades, trouvant à cette trahison des bénéfices certains. Et même quand leur naturel batailleur ou pillard reprenait le dessus, il n'écopait guère, comme corvée de punition, que de la balade à la bûche, qui consiste à transporter pendant des heures de lourds madriers d'un point à un autre pour les rapporter ensuite au point de départ. Dans l'instant, pendant qu'il commençait à agacer Pallas, il travaillait tout doucement à fabriquer des objets d'art destinés à être échangés. Quand se présentait un visiteur, contre des paquets de tabac ou quelques menus monnaies. Arigonde, dit le Parisien, venait de finir de graver au couteau, dans une mâchoire de requin, ces mots fatidiques, le tombeau du forçat. Cette Arigonde en voulait à mort à Pallas de l'avoir détrôné aux îles du Salut comme homme du monde. Jusqu'à son arrivée, c'était lui qui avait le sceptre de l'élégance, si l'on peut dire. Inutile d'expliquer que cette réputation d'élégance tenait moins dans la coupe des habits et dans la façon de faire son nœud de cravate que dans certaines manières que l'on ne trouve point dans le commun des forçats et qui attestent une éducation soignée. En dépit de toutes les hâbleries du Parisien, qui n'était jamais à court pour raconter ses bonnes fortunes dans la haute et vanter ses relations mondaines, Arigonde, à côté de Pallas, n'en paraissait pas moins ce qu'il avait été tout d'abord, un employé de petit magasin qui fait des grâces avec la clientèle. Pallas avait repris sur la grève sa position première et il n'avait pas l'air d'entendre le bêcheur qui glapissait. « Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. » Ricanement des autres. « Monsieur Pallas ne daigne point entrer en conversation avec d'humbles fagots comme nous, » reprit le bêcheur, un ancien clerc d'huissier qui avait aidé un client à découper son patron en morceaux. « Monsieur Pallas fait sa chicorée, sa chochotte, sa pâte à gueule. » « Monsieur Pallas pleure sur les malheurs de la patrie !» glapit l'ignoble Fric-Frac, un ex-Montanlair, qui était un petit homme quasi désarticulé, marchant de côté comme un crabe. « Caïd aussi voudrait faire pan-pan sur les boches. Caïd, bon soldat !» Pallas se mordait les doigts pour ne pas laisser échapper un rugissement, en entendant cette horreur de Ben Kassa, le fagot musulman, voleur de petites filles et pourvoyeur, réclamer sa part au combat. Hélas, hélas, ne soupirait-il pas lui-même après la sienne? Et c'est bien parce qu'il l'avait entendu, le soir où ils avaient appris la déclaration de guerre, clamer son désespoir et encore une fois son innocence et réclamer un fusil, que les misérables se gaussaient de lui sinistrement. « Je viens de voir le paillot qui ramoule de l'Avergne. le vague maître qui revient de la ville, déclara le Parisien. Il apporte de fameuses nouvelles. Paraît que Joffre réclame Pallas pour en faire son chef d'état-major. Cette fois, Pallas bondit et tous reculèrent, car Pallas était fort. Seulement, il savait qu'il répugnait à se piocher avec les fagots, et de fait, il se contenta de leur cracher quelques menaces qui déchaînèrent leur rire à distance. « Si tu crois que tu nous épates avec tous les flambeaux que tu racontes !» lui cria Fric-Frac. « Garde ta salade !»« Des vannes à la noix !» exprima le bêcheur en se mettant prudemment hors de portée. « Qu'est jactance !»« Quand t'auras bien jacté, je te bénirai, quoique j'ai su le cœur !» annonça le Parisien, qui n'osait se mesurer avec Pallas, mais qui le haïssait tant qu'il mourait d'envie de le battre. Il fit un pas vers Pallas. Celui-ci serrait les poings. Il commençait à voir rouge, quand l'arrivée d'un nouveau personnage fit disparaître les quatre misérables comme par enchantement. Il n'avait pas eu besoin, celui qui arrivait, d'ouvrir la bouche. Il n'avait eu qu'à se montrer. C'était Chéri Bibi. Chapitre 2 Chéri Bibi. « Tu es donc sorti du cachot ?» demanda Pallas. « Oui, » répondit le bandit qui travaillait de la pointe de son couteau un morceau de bois dur taillé d'une singulière façon. C'était une figure effroyable que celle de Chéri Bibi. D'exceptionnelles aventures, de longues années de bagne, coupées d'évasions sans nombre, des passions farouches, la torture de la chair et jusqu'à la flamme ardente du vitriol, avait ravagé cette face formidable qu'on ne pouvait voir sans terreur. Cependant, de temps à autre, quand il regardait Pallas, par exemple, une lueur de bonté étrange éclairait cette tête d'enfer. Toute sa personne, du reste, était redoutable. Ses poings énormes, sa carrure, ses épaules, qui semblaient faites pour soulever de prodigieux fardeaux, tout en lui donnait une impression de force irrésistible. Lorsqu'il fournissait un effort, les muscles dessinaient sous sa blouse de forçat un relief saisissant. Cette blouse le couvrait toujours. On ne l'avait jamais vu, comme ses compagnons, travailler ou se promener le torse nu. On disait que la chair de sa poitrine portait, imprimée, le secret de sa vie, et que certains tatouages exprimaient en toutes lettres celui de son cœur. Or, Chéri Bibi avait une grande pudeur pour les choses de l'amour. Cet homme, dont on ne comptait plus les crimes, avait toujours eu, comme on dit, des mœurs irréprochables. Chéri Bibi et Pallas se croyaient seuls. Il n'avait pas vu Fric-Frac revenir sournoisement sur ses pas pour, à l'abri d'un rocher, les guetter et les écouter. Chéri Bibi s'assit à côté de Pallas, travaillant toujours son morceau de bois dur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Pallas. « Ça ?» répliqua Chéri Bibi. « C'est la clé de la liberté. »«
Qu'est-ce que tu dis ?»
fit Pallas en pâlissant. Chéri Bibi poussa un soupir à fendre les cœurs les plus endurcis.
« Je t'aime bien, mon poteau, et j'aurais voulu te conserver près de moi, »
dit-il d'une voix qui tremblait. « Mais je vois bien que tu te meurs ici. Réjouis-toi, tu seras bientôt libre. Tu vas pouvoir retourner en France, Pallas. » Celui-ci savait que Chéri Bibi ne parlait jamais inutilement. Il le crut. Un espoir immense gonfla sa poitrine.
« En France ! » soupira-t-il.
« 22 !» souffla le bandit.
« 22 » dans le langage du bagne signifie « attention !» Pallas tourna légèrement la tête et aperçut la silhouette d'un garde chiourme qui passait non loin d'eux, le fusil en bandoulière. L'artoupan jeta un coup d'œil de leur côté et s'éloigna en longeant le flot. Fric-Frac était toujours à son poste d'écoute. Chéri Bibi continuait.
Et, tu sais, je te donnerai les papiers d'un honnête homme. T'auras tout ce qu'il faut pour te faire encore du bonheur.
« Mon Dieu !» gémit l'autre.
Et il regarda Chéri Bibi. Chéri Bibi pleurait. Palas tressaillit. C'était un spectacle auquel il n'avait jamais assisté. Des larmes dans les yeux de Chéri Bibi. Chéri Bibi se donna des coups de poing dans les yeux, pour se punir certainement de cet instant d'attendrissement. Et il cracha un blasphème épouvantable.
« Pourquoi ne fuis-tu pas avec moi ?» demanda Palas.
« Parce que je te gênerai, mon petit. T'auras vite oublié, chéri Bibi, va. »«
Jamais !» dit l'autre. « Il n'y a que toi de bon pour moi ici. Tu n'as pas cessé de me protéger. »«
Te protéger ? T'as besoin de la protection de personne. Sous tes dehors de demoiselle, t'es aussi fort que moi. » Si tu avais voulu les bomber une bonne fois, ceux qui te font du boniment, ils t'auraient vite fichu la paix. Mais t'es trop grand seigneur. Du reste, c'est ce qui m'a plu en toi. Moi, j'aime les gens bien élevés. Et puis j'aime aussi les honnêtes gens. Et t'es un honnête homme. Je te crois quand tu me dis que t'es innocent. Je me rappelle le temps où je n'avais pas encore fichu mon premier coup de couteau. Je le vois toujours, ce premier coup de couteau. J'en avais toujours un de couteau à la ceinture. J'étais garçon boucher au Polet. Tu le connais, le Polet. C'est près de Dieppe. L'été, tu as dû aller aux courses par là. T'as toujours été un type chic, toi. Pourquoi que te revoilà tout pâle?
Parce que je pense aux courses de Dieppe,
fait Palas en fermant les yeux.
Ouais, c'était le bon temps, hein. « Crois-tu qu'il y en avait des élégances ? Du vlan, du zinc, et des gommeux anglais, et des cocottes que c'en était honteux ! Pour t'en revenir à mon premier coup de couteau, ça m'est arrivé juste sur la falaise de Dieppe. Un voyou était en train de faire passer le goût du pain à un brave homme. J'arrive, je veux donner un coup de couteau au voyou, je tue l'honnête homme. C'est moi qui ai été condamné. » Fatalitas, voilà le départ de tous mes malheurs. Mais je ne veux plus penser à tout ça, ni à la France, ni à rien. J'ai commis plus de crimes que j'ai de doigts aux deux mains, et toujours dans la meilleure intention. Tu sais, c'est comme un fait exprès. Fatalitas, alors, vaut mieux que je reste ici, pas ? Une fois pour toutes. Le bagne, vois-tu, il a été fait pour moi. C'est mon foyer. Toi, t'es jeune, c'est une autre paire de manches. Tu peux te refaire une vie, épouser une brave et honnête femme, la rendre heureuse. Un conseil, fuis les gourgandines. Tu dois en être corrigé, hein ?
Il y a des chances, fit Palas en souriant à chéri Bibi, dont les propos de haute moralité l'étonnaient toujours dans cette bouche effroyable.
Mais... tu ne m'as toujours pas dit ce que tu fabriques, là. »
Chéri Bibi ne répondit pas tout de suite, mais levant les yeux vers le môle, dont on apercevait la pointe protégeant un petit port naturel, il dit
« À Borgne, regarde, un peu là-bas ce qui se passe. »
Palas regarda. Là-bas, une forte chaloupe à pétrole, venant certainement des établissements forestiers de Saint-Laurent-du-Maroni, accostait au môle. Un officier en sortait et était reçu sur le môle par le groupe des autorités qui avait la garde de l'île.
« Zieux de bien ce qui se passe !» continuait chéri Bibi. « Qu'est-ce que tu vois ?»«
Eh bien, mais... » répondait Palas. « C'est l'officier de surveillance qui vient de finir sa tournée. Ils doivent tous lui demander des nouvelles de la guerre. » Elles ne doivent pas être bonnes, ils n'ont pas l'air de se réjouir.
Et après ?
Après, le lieutenant se penche sur la chaloupe.
Ah ! Fit chéri Bibi, nous y voilà. Et alors ?
Le mécanicien est debout sur le rouf et lui passe quelque chose que l'officier met dans sa poche.
Halte, t'en as assez vu. Et maintenant, regarde ça. Chéri Bibi montrait son bout de bois auquel il avait cessé de travailler.
« Ça, continua le bandit, c'est exactement la chose que l'officier de surveillance vient de mettre dans sa poche. Et sais-tu ce que c'est que la chose ?
C'est une pièce du moteur, indispensable pour que la machine marche. Quand il a ça dans sa poche, l'as de carreau, l'officier, est tranquille. Rien à faire pour les fagots avec son grafouilleur. Rien à faire pour les forçats avec sa chaloupe automobile. En allant de corvée à Saint-Laurent, j'ai eu l'occasion de bien examiner sa pièce. Je te jure que celle-là doit y ressembler comme une praline.
Sœur, et s'il y manque quelque chose, on fera ce qu'il faudra ce soir.
Ce soir ? S'exclama Pallas.
Oui, mon petit, ce soir tu seras libre, foi de chéri Bibi. J'ai fini de creuser mon trou dans la case. Ce soir, on va rigoler.
22. Les artoupans, on sonne l'appel. Les deux forçats se levèrent. Pallas, derrière chéri Bibi, vacillait d'espérance. Ils s'en furent s'aligner avec les autres de leur bordée dans un chemin creux que dominait une case de l'administration. C'est là qu'ils travaillaient à tracer une nouvelle route qui traversait l'île. Or, de toute cette journée, Pallas et chéri Bibi n'avaient pas fait un geste qui ne fût épié de fric-frac, pas échangé une parole qui n'eût été entendue ou devinée de lui. Fric-frac avait dit entre-temps aux Parisiens, aux caïds et aux bêcheurs
« Tenez-vous chaud, il y aura du bon ce soir à la neuil autour des cubes.
Tenez-vous prêt, il y aura du bon cette nuit pendant la partie de dés. » Quand il fut 6 heures, après le dernier appel, les forçats se dirigèrent vers leur dortoir, presque gaiement. La journée était finie. Les forçats sont alors enfermés dans leur case, dortoir commun, où ils font ce qu'ils veulent, dorment ou boivent ou jouent, débarrassés des gardes-chiourmes. Chéri Bibi, Pallas, le Parisien, Fric-Frac, le caïd, le bêcheur, partageaient la même case avec une vingtaine d'autres. Ce soir-là, l'as de carreau fit la tournée des dortoirs. Alignés devant la double rangée de leur hamac, ils écoutaient ses observations. L'officier leur déclarait qu'ils ne voulaient point de bruit dans la case, qu'ils étaient chez eux, la porte fermée, mais que c'était pour dormir, et que si l'on avait encore à se plaindre d'eux, il enverrait toute la case dans les cages du bâtiment central. Avant de partir, il demanda « Quelqu'un a-t-il à me présenter une observation ?» C'est alors que Pallas s'avança et dit « Monsieur l'officier, le bruit court que de mauvaises nouvelles sont arrivées de France.
« En quoi cela peut-il vous intéresser ?»
répliqua l'autre très durement. « Des gens comme vous n'ont plus rien à faire avec la France. » Pallas avait pâli. Un grondement des plus menaçants courut les rangs des bagnards. Les artoupans leur imposèrent silence en sortant leurs revolvers. Cependant, l'un des forçats ne put s'empêcher de s'écrier «
Qu'on nous donne un fusil, on verra si nous ne savons pas mourir comme les autres. »
« Vous n'en êtes pas digne, » répliqua l'officier, et il s'éloigna. La porte fut refermée. Des points terribles se dressèrent. Un tumulte de blasphèmes emplit la case. Pallas se jeta dans son hamac et se cacha la figure dans les mains. Pour des êtres qui ont été accablés par le destin, comme Pallas, ces heures de dortoir, si chères aux autres à cause de l'absence de toute surveillance, étaient certainement ce qu'il y avait de plus dur dans le châtiment dont la justice humaine l'avait frappé. La promiscuité y était abominable. Toutes les passions, tous les vices entretenus par l'alcool et le jeu s'y donnaient un libre cours. Là, c'était vraiment l'enfer. Heureusement pour Pallas que le sort, si cruel par ailleurs, lui avait donné comme compagnon chéri Bibi. La présence de ce dernier et la terreur qu'il inspirait faisaient qu'on laissait Pallas à peu près tranquille.
Dans son hamac, il fermait les yeux pour ne point voir toutes ces têtes hideuses. Mais il entendait, et c'était horrible. Les bouteilles de tafia, les jeux de cartes, l'or sortaient l'on ne savait d'où, et le sabbat commençait. Sans se préoccuper de ce que l'on faisait autour de lui, Chéri Bibi avait soulevé une des dalles dont le sol de la case était pavé. Un trou était là, béant. Il s'y introduisit. Il y avait 2 mois que Chéri Bibi travaillait à ce trou. Il n'avait été interrompu dans son travail souterrain que par les 8 jours de cachot qu'il s'était fait donner dans l'intention d'achever tranquillement de sculpter de la pointe de son couteau le bout de bois qui devait leur fournir le moyen d'user du moteur de la chaloupe. Quand il travaillait à son trou, ses compagnons, chaque matin, l'aidaient à sortir, sans qu'on s'en aperçût, la terre qu'il avait extraite pendant la nuit. Il avait promis en échange au fagot qu'il y aurait, au bout de son projet, de l'évasion pour tous ceux qui en voudraient. Il ne s'était pas expliqué davantage. On le laissait faire, curieux de ce qu'il allait tenter. Le Parisien et sa bande ne l'avaient pas vendu, et il y avait à cela plusieurs raisons, dont la moindre n'était pas que Chéri Bibi avait déclaré que si on le vendait, il saurait qui avait fait le coup, et que de toute façon, même s'ils étaient innocents, il ferait passer le goût du pain aux Parisiens et à Fric-Frac. Il se trouva encore que, depuis quelque temps, le Parisien et sa bande nourrissaient le projet, eux aussi, de s'évader. Ils ne désespéraient point que le plan de Chéri Bibi, quand ils le connaîtraient entièrement, leur fût utile. Ce soir-là, assis sur leur sac, dans un coin, le Parisien, Fric-Frac, le Caïd et le Bêcheur regardaient Chéri Bibi se glisser dans son souterrain. « C'est-il qui sera bientôt fini, ton trou ?» demanda le Bêcheur. « Je vous demande encore 8 sorgues. »« Nuit !» fit Chéri Bibi, et il disparut. Les 4 forçats avaient sorti les dés et faisaient une partie à la lueur sinistre des falots réglementaires accrochés au toit du baraquement. La nuit était tombée, rapide, comme toujours dans ces régions. D'autres parties dans tous les coins avaient commencé. Il y en avait qui jouaient aux cartes, on avait débouché des bouteilles. Une abominable odeur de rhum s'était répandue. Dans son hamac, Pallas semblait dormir. « Chéri Bibi vous ment !» souffla Fric-Frac à ses 3 acolytes. « Chéri Bibi nous a chiqués !» mentit. « C'est ce soir qu'il fait son coup. Il s'échappe par son souterrain et embarque dans la chaloupe de l'As de Carreau. Il a un truc pour faire marcher la machine. Pallas doit aller le rejoindre dans 1/2 heure, sitôt que Chéri Bibi aura paré le moteur prêt à partir. Mais les poteaux, camarades, empêcheront Pallas de sortir, et c'est nous qui nous esbignerons. Chéri Bibi, ne voyant pas arriver Pallas, reviendra le chercher. Nous en profiterons pour sauter dans la chaloupe et en route. » Le coup était savamment monté. Les autres fagots, furieux d'apprendre que Chéri Bibi les avait trompés, se tenaient prêts à marcher sur un signe de Fric-Frac. Pallas simulait le sommeil, et cependant une fièvre intense le brûlait. À cette heure effroyablement décisive, il songea à sa mère, morte de douleur, et il pria vers elle. Sa maman. Les années dorées de sa belle jeunesse. Il revécut le passé. Il revit sa lumineuse image quand tout lui souriait, quand il n'avait qu'à se pencher pour cueillir toutes les fleurs embaumées de la vie. Chapitre 3. Les ombres du passé. Mais voilà que dans ce jardin enchanté, Raoul n'avait pas su choisir. Il a toujours fallu très peu de choses pour que le paradis devienne le jardin des supplices. À l'aurore de la vie comme à l'aurore du monde, il suffit toujours d'un geste de femme pour déterminer la catastrophe. Que de folie il avait faite pour cette danseuse fantasque qui se moquait de lui et qui le ruinait. Pour cette Nina Noah qui n'avait su que le torturer, l'affoler de jalousie et le précipiter aux pires fièvres du jeu. Alors, il s'était lâchement accordé une excuse à ses premiers désordres. Si la courtisane avait été sa première passion, elle n'avait pas été son premier amour. C'est dans ses bras qu'il avait voulu oublier une femme, une jeune amie de sa mère, douloureusement mariée à un très honnête homme qu'il aimait et qu'elle n'aimait pas. Elle s'était donnée à Raoul dans un moment d'égarement, puis s'était reprise aussitôt, poursuivie par le remords de la faute commise. Ça avait été pour Raoul et pour cette femme une terrible aventure, pleine d'un mystère redoutable auquel Raoul, maintenant, ne pouvait songer sans une inexprimable angoisse. Mais comme elle avait été vite oubliée, cette première faute de sa vie, dans la loge où Nina Noah rhabillait chaque soir sa beauté quasi nue, après les danses d'un art violent, tour à tour langoureux et brutal, qui faisait courir tout Paris. Il avait voulu être le seul maître de cette idole. Stupide orgueil, folie! Il avait payé de son patrimoine quelques instants d'un plaisir toujours disputé. Quelle pitié! Il se rappelait certains soirs de répétition générale dans un petit théâtre mondain du boulevard où Nina avait triomphé. Elle lui avait promis de souper avec lui. Pénétrer à 1 heure du matin dans une salle de restaurant à la mode avec cette femme couverte de bijoux à son bras était pour Raoul une joie éclatante pour laquelle, comme un enfant, il donnait tout ce qu'il possédait. Elle avait été bonne ce soir-là. Elle lui avait permis de l'afficher. Raoul de Saint-Dalmas, aux yeux de tous, était l'heureux ami de Nina Noah. Quelle heure inoubliable! Pallas voyait encore la salle chaude, éblouissante de lumière et de la parure des femmes. Il entendait encore les tziganes et leur musique frénétique. Il eût pu répéter les paroles de ses amis qui faisaient la cour à Nina. Mais Nina, ce soir-là, ne les écoutait pas. Elle souriait à Raoul, qui lui avait promis pour le lendemain ses derniers 20 000 francs. 20 000 francs, un sourire de Nina, c'est pour rien. Mais le payer du bagne, Raoul, n'est-ce pas un peu cher? Ouvre les yeux, Raoul, et regarde. Regarde les convives qui sont cette nuit à ton banquet. Voilà des figures qui changent un peu des petites fêtes du boulevard. Avec quelles expressions de haine ces masques de bagnards se penchaient sur leur misérable victime. Pallas ne disait rien. Il ne disait jamais rien, ce chien de Parigot. Cette demoiselle qui était forte comme un turc et qui, pendant plus de 10 ans, n'avait même pas daigné se colter une seule fois avec eux. À quoi pensait-il sous ses paupières closes? Ah, il n'était pas incapable de lui arracher les paupières pour savoir un peu quel rêve on faisait là-dessous. Pauvre Raoul, malheureux enfant, qui, au fond de la nuit du bagne, faisait revivre l'éclat des fêtes parisiennes et le souvenir ardent de Nina Noah. Elle avait été plus cruelle encore que ses bourreaux actuels, la jolie danseuse, qu'il avait mis si bien à la porte quand il avait été ruiné. Alors il avait pensé à son seul refuge, à sa chère maman, qui accueillit avec joie l'enfant prodigue. « Maintenant, tu vas travailler !» Sincère, il avait promis de racheter ses fautes. Madame de Saint-Dalmas avait conduit son fils chez un vieil ami de la famille, le banquier très parisien Charles Reynaud, qui avait consenti à prendre Raoul chez lui. C'était un très brave homme qui n'avait pas eu, lui non plus, une jeunesse exemplaire, ce qui ne l'avait pas empêché de se mettre plus tard au travail et d'acquérir une fortune considérable. il voulut former lui-même Raoul, en souvenir du père du jeune homme, qui, lui, avait été un ami fidèle. Il en fit son secrétaire particulier et le garda dans son propre bureau. Au bout de quelques mois, Raoul, qui avait montré une grande volonté de travail et une rare intelligence, était devenu l'homme de confiance de Charles Reynaud. Le malheur fut que Raoul n'avait pas cessé de songer à Nina. Il avait essayé de renouer des relations avec la danseuse. Elle ne l'avait même pas reçue dans sa loge. Il souffrait atrocement de ses mépris. Tout le drame devait venir de là. Le samedi qui précédait le Grand Prix de Dieppe, Reynaud était entré dans son bureau. Avec un ami, au moment où Raoul maniait des sommes considérables. Le jeune homme se disposait à les lui remettre. Pendant que Raoul comptait les liasses de 10 000 francs, Reynaud disait à son ami « Le tuyau est sûr. Volubilis à 20 contre 1, dans un fauteuil. » On vint demander sur ces entrefaites le banquier qui passa dans une pièce adjacente. Son ami ne l'attendit pas. Raoul avait des flammes au cerveau. Il avait arrangé pour le lendemain un voyage à Dieppe, moins pour voir sa maman qui s'y trouvait en villégiature que parce qu'il savait que Nina serait au Grand Prix. Nina, volubilis 20 contre 1, et 2 louis en poche. Ses mains froissaient fébrilement tous ses billets, dont un seul pouvait lui redonner une petite fortune. Charles Reynaud était l'ami intime du propriétaire de Volubilis. Raoul n'avait aucun doute sur la valeur du tuyau. Il pensait pouvoir rembourser le surlendemain. Tout de même, un emprunt pareil, quelle que fût la somme et l'espérance de remboursement, ça avait un nom. Raoul était en train de désépingler une liasse de 10 000 pour lui emprunter une coupure, une seule, quand Reynaud rentra dans le bureau. Il n'eut que le temps de faire disparaître toute la liasse dans la poche intérieure de son veston. Le banquier jeta en hâte toutes les sommes qui se trouvaient sur la table dans son coffre, sûr de la comptabilité et de l'honnêteté de Raoul, et il partit. Derrière lui, un jeune homme, d'une pâleur mortelle, faisait un geste comme pour le retenir. Mais le banquier ne se retourna pas. Raoul de Saint-Dalmas avait 500 louis à mettre sur Volubilis, et c'était un voleur. La minute qu'il vécut, quand le lendemain la cloche du pesage annonça que le départ venait d'être donné, comment l'oublierait-il jamais? Quelle torture et quel espoir habitait son cœur! Oui, dans une minute, montre en main, il serait un homme perdu à jamais ou riche de nouveau, et nul ne pourrait soupçonner sa honteuse défaillance. Et Nina Noah serait à lui. C'est pour elle qu'il avait vécu cette minute atroce. Il avait passé la nuit à errer comme un insensé sous ses fenêtres. Mais quelle revanche, peut-être, se préparait pour lui. Dans une minute, il serait fixé. Nina ou la cour d'assises. Il n'avait pas voulu voir la course. Seul, derrière les tribunes, il marchait. La sueur coulait de ses tempes. Quelqu'un qui l'eût rencontré alors l'eût difficilement reconnu, tant la folie du moment l'avait ravagé. Ses gants, entre ses mains, n'étaient plus que des loques. Un immense silence planait sur le champ de course, comme il arrive parfois dans les secondes critiques où le sort d'une grande épreuve est en suspens. Et puis tout à coup, il y eut 1 000 cris. « Volubilis ! Volubilis ! Volubilis ! Tout seul !» Il se rua vers les tribunes, bouscula des joueurs qui protestèrent, mais arriva à temps pour voir Volubilis, que l'on avait cru un moment vainqueur, arriver 4e. Raoul descendit les gradins avec des hésitations de vieillard.
Il voulait quitter le champ de course tout de suite. Il pensait à se tuer. Il rencontra Nina, entourée de ses amis. « Eh bien, mon petit, il me coûte 50 louis, ton tuyau. »
Il ne répondit pas. Il lui jeta un regard de désespoir infini. Il ne l'aimait plus. Son désastre moral était si grand qu'il ne lui restait plus qu'un horrible mépris pour elle et pour lui-même. Il gémit « Pardon, maman. » Et c'était pour sa mère qu'il avait renoncé au suicide. Il s'était demandé, à cause d'elle, s'il n'y avait point quelque chose de mieux à faire et de plus brave que de se loger une balle dans la tête. Les bons sentiments qui étaient encore au fond de lui et que n'avaient pu étouffer tout à fait les désordres de son imprudente jeunesse lui avaient dicté son devoir. Dès le lendemain matin de ce jour fatal, il se rendait à son bureau comme à l'ordinaire. Il était décidé à tout dire à Reynaud. Celui-ci ne parut pas dans la matinée. Raoul eut encore à manier de fortes sommes. Pas une seconde, la possibilité de regagner les 10 000 francs volés en faisant un nouvel emprunt à la caisse ne le tenta. Il n'en eut même pas l'idée. Son premier geste, dans ce genre d'exercice, l'avait rempli d'une horreur sans nom. Il se sentait capable de mourir de faim devant des millions. L'après-midi, il fut le premier au bureau. Reynaud ne venait toujours pas. Le supplice de Raoul était à son comble. Un haut employé de l'administration, qui eut l'occasion de lui parler, fut frappé de sa pâleur et de son air égaré. Il ne paraissait pas entendre ce qu'on lui disait. « Vous êtes malade ? » lui demanda-t-il. Il ne répondit pas à sa question, mais demanda « Est-ce que Monsieur Reynaud ne doit pas venir aujourd'hui ?»« Si, mais il arrive tard. Il est à la vente des bijoux de la reine de Carinthie. » Reynaud rentra vers les 6 heures. Mais il n'était pas seul. Il avait avec lui quelques amis qui le félicitaient de l'achat d'un collier de perles magnifique. Sans s'apercevoir du trouble de Raoul, il lui montra le collier dans son écrin. Raoul connaissait déjà ce bijou que Reynaud désirait acquérir et qu'il était allé voir avec lui chez l'expert. Il se pencha sur le collier sans pouvoir prononcer un mot. Reynaud crut qu'il prolongeait à dessein son examen à cause d'une des perles qui avait un défaut. « Je ne comprends pas qu'ils aient laissé cette perle dans un pareil joyau, » disait Reynaud. « Je la ferai enlever. » Telle qu'elle, le collier est encore pour rien, 150 000 francs. Raoul, pour qu'on ne s'aperçût pas de son agitation, continuait de fixer stupidement le collier. Toute sa vie, il devait en avoir la vision. C'est une perle morte, mais il serait peut-être possible de lui rendre son éclat primitif. Et ces messieurs discutèrent quelque temps là-dessus. Puis ils se retirèrent, et Raoul et Reynaud restèrent seuls. Alors Raoul dit tout. Pendant qu'il parlait, le banquier le regarda d'abord avec stupéfaction, puis avec une menaçante sévérité. C'est en tremblant que Raoul termina sa confession. « Ce n'est pas pour moi, monsieur, que je vous implore. C'est pour ma mère. Qu'elle ne sache rien. Je me tiens à votre disposition pour faire ce que vous voudrez. Je suis votre chose. J'accepterai le travail le plus misérable. Et devrais-je les regagner sou à sou, je vous rendrai ces 10 000 francs. » Il s'était tu. Le banquier gardait le silence, un silence terrible qui se prolongeait. Raoul crut qu'il était perdu. Il sortit un revolver de sa poche. Reynaud vit le geste, comprit que Raoul allait se tuer. Il lui saisit la main, le désarma, jeta le revolver sur le bureau. « Malheureux enfant, qu'as-tu fait là ?» Raoul s'écroula à ses genoux en sanglotant. Il le releva. « Rassure-toi, ta mère ne saura rien. » Le banquier alla lui-même pousser le verrou de la porte qui faisait communiquer son cabinet avec les bureaux de son administration, et revint à Raoul. « Comprends-tu ce qu'il y a de plus affreux dans cette histoire ? C'est que toi, qui as reçu une éducation exceptionnelle et dont je veux croire, malgré tout, le fond honnête, tes aveux et ton repentir me le prouvent. Tu n'es pas su résister à une aussi basse tentation. Tu es plus coupable qu'un autre, Raoul. Écoute, voici ce que j'ai décidé. Tu vas quitter Paris, la France et toutes les Nina Noah qui ont fait ton malheur. Tu iras te refaire une vie en Amérique. Tu prendras demain matin le paquebot qui part du Havre pour New York. Je dirai à ta mère que c'est moi qui t'ai expédié là-bas d'urgence pour une affaire importante. Tu vas prendre le rapide de 8 heures ce soir. Tu n'as pas de temps à perdre. » Et ouvrant son coffre-fort, il y prit 2 liasses de 10 000 francs qu'il tendit à Raoul. « Débrouille-toi avec cela et redeviens un honnête homme. Ne me remercie pas. Je fais cela en mémoire de ton père qui m'a rendu de gros services. » Raoul, éperdu, suffoquant de reconnaissance, partit avec les 20 000 francs. Le banquier lui ouvrit lui-même la petite porte qui lui servait d'entrée particulière et qui permettait la sortie directe par la cour. Il avait laissé son coffre-fort ouvert. Il n'y avait pas une minute qu'il était revenu dans son cabinet que, des autres bureaux, on entendit un tumulte effroyable, des cris, le bruit d'une lutte, un coup de feu. On se rua sur la porte du cabinet, on dut la défoncer. Quand on pénétra dans le bureau particulier de Reynaud, celui-ci gisait, tué d'une balle au front, devant son coffre-fort ouvert. Le collier, les titres, les billets, tout ce qui avait une valeur avait disparu. On chercha Raoul, il restait introuvable. On se rappela la mine singulière qu'il avait eue ce jour-là. Le soir même, l'enquête avait établi que le revolver, fumant encore, trouvé dans le bureau, avait été acheté le matin de ce jour par Raoul. On ne douta point qu'il eût fait le coup, ni qu'il se fût échappé par la fenêtre, laissée grande ouverte et donnant sur le toit d'une petite pièce en encorbellement, d'où l'on pouvait gagner, par une fenêtre, l'escalier intérieur d'un immeuble voisin. Le lendemain matin, Raoul était arrêté au Havre, au moment où il se disposait à prendre le paquebot pour l'Amérique. C'est en vain qu'il clama son innocence. Son avocat lui-même n'y crut pas. Trop de preuves l'accablaient. On sait le reste. Chapitre 4. Quelques gestes dans la nuit. Nous avons vu Chéri Bibi quitter le dortoir pour se glisser dans son trou. Le souterrain qu'il avait creusé là, avec une patience et une astuce que l'on ne rencontre qu'au bagne, constituait un travail de géant, pour peu que l'on songe à la simplicité excessive des outils dont il disposait. Un couteau, une pointe de fer et quelques boîtes à sardines. Cependant, il en était arrivé à bout. Et tout seul, défendant à quiconque de mettre le nez sur son ouvrage. Le souterrain était long de plus de 100 mètres, s'avançant autant que possible dans de la terre meuble, mais évitant le sable, pour déboucher entre 2 rochers. On se trouvait alors dans un endroit absolument désert, surtout la nuit. Enfin, ce débouché se trouvait sur la grève, le long de laquelle Chéri Bibi devait se glisser pour atteindre le môle où était enchaînée la chaloupe. Quand il apparut à l'orifice de ce trou, il n'était pas plus de 9 heures du soir. La nuit était claire, de sa clarté équatoriale. Il fallait donc prendre de grandes précautions pour n'être point aperçu, soit des gardes de service, soit des rondes. Mais, en dehors de ces rondes qui suivaient toujours le même chemin, à heure fixe, le service de garde était réduit à sa plus simple expression. C'était l'heure du dîner pour les autorités et du repos pour les bagnards enfermés dans leurs cases. Un artoupan, le fusil en bandoulière, était généralement assis sur un banc, adossé à un petit baraquement à l'extrémité du môle. veillant vaguement, fumant et attendant en bâillant son heure de relève. Ce soir-là, Chéri Bibi, en se glissant à quatre pattes le long du môle, put constater que l'artoupant n'y était pas. Où était-il? S'était-il endormi dans la baraque? Avait-il coupé à son service et buvait-il du tafia en compagnie de quelques camarades? Tant mieux pour lui, souffla Chéri Bibi, et il sauta dans la chaloupe. Il ajouta même, toujours en aparté, « Et tant mieux pour moi !» Chéri Bibi répugnait en général aux gestes de grande brutalité. Il ne s'y résolvait que contraint et forcé, et il avait suffisamment, à ce propos, eu l'occasion d'accuser la fatalité, pour remercier, pour une fois, la Providence qui lui épargnait la vie d'un homme. Une demi-heure environ après le départ de Chéri Bibi, il y avait un étrange silence dans la case. Tous les jeux s'étaient arrêtés, tous les regards étaient tournés d'un même côté. Le trou, creusé par Chéri Bibi, était presque sous le hamac de Pallas, qui venait de laisser glisser ses jambes sur le sol, mais qui s'arrêta soudain dans son mouvement, surpris par le silence subi. Et tout à coup, tous se ruèrent sur lui. « Où vas-tu ?» Pallas les vit si menaçants qu'il comprit qu'ils étaient déterminés à tout plutôt que de le laisser sortir de la case. Il essaya de parlementer. « Je vais rejoindre Chéri Bibi. Il m'a demandé de venir l'aider. Qu'est-ce qu'il y a là qui vous gêne ?» Pallas ne parlait jamais argot. Cela encore était fait pour exciter l'animosité des bagnards, qui ne pardonnait point à Pallas d'être resté aussi distant avec eux qu'au premier jour. « des vannes, les pâteurs, le batteur, c'est pas vrai. Chéri Bibi veut jamais qu'on taupe. Travaille, pour lui, n'a besoin de personne pour arracher son copeau. Il m'a dit de venir le rejoindre. Tu mens, Pallas, faut rester ici, caille. Un bon conseil. « Range tes gadins, pieds, et joue de l'orgue, ronfle, c'est ce que t'as de mieux à faire. » C'était le Parisien qui avait parlé. Il se tenait du reste à une distance suffisante de Pallas. De son côté, Fric-Frac dirigeait son monde assez sournoisement, en poussant le plus possible contre Pallas, se disant qu'il n'y en aurait jamais trop, et qu'il allait y avoir de la casse. La bataille fut déchaînée par un mouvement brutal de Caïd qui avait saisi les pieds de Pallas et les avait rejetés dans le hamac. Pallas bondit hors du hamac sur le Caïd, mais celui-ci lui échappa. Ils furent 20 sur Pallas. Il y eut des coups terribles. On entendait sonner des crânes sur les dalles. Cette case, où se déchiraient des bêtes fauves, était pleine de sourds rugissements, de râles effroyables. Sentant que la haine de ses compagnons ne lui permettrait jamais de s'évader, Pallas, dont le dernier espoir était mort, résolut de mourir avec lui. Mais il se paierait en mourant de tout ce qu'il avait souffert, de tout ce qu'il avait enduré de ces ignobles geôliers, plus haïssables que les artoupans, et plus féroces que les monstres eux-mêmes qui guettent leur proie derrière les rochers de la Royale. Il se battit comme un lion. Beaucoup de ceux qui l'accablaient devaient conserver longtemps les traces cruelles de cette lutte sanglante. Cependant, dans cet étroit espace, il succomba bientôt sous le nombre. Quasi étouffé, réduit à l'impuissance, 20 forçats pesant sur ses membres, il se vit lié étroitement et formidablement par une corde sortie d'on ne sait où. Ainsi fut-il rejeté dans un coin, haletant et vaincu. Il ferma les yeux pour qu'on ne vît pas son désespoir. Ainsi, au moment où il croyait en sortir pour toujours, la géhenne le reprenait tout entier. Continuer à vivre cette vie, plutôt mourir. Pourquoi ne l'avait-il pas tué tout à l'heure? Que n'avait-il senti autour de sa gorge rugissante l'étreinte de fer des doigts assassins qui l'auraient délivré de cette existence maudite? 10 ans il avait enduré ce supplice. 10 ans pendant lesquels il n'avait cessé d'espérer sa délivrance, par l'évasion ou par le miracle qui aurait prouvé son innocence. Maintenant, il n'espérait plus rien. Il songeait au genre de suicide à choisir. Et pendant ce temps-là, Chéri Bibi l'attendait. Chéri Bibi qui avait tout préparé, qui avait accompli des prodiges. Pour aboutir à quoi? Parmi les têtes hideuses des bandits penchés sur Pallas, celui-ci eut en vain cherché maintenant le Parisien, Fric-Frac, le Caïd et le Bêcheur. Les 4 forçats, pendant l'atroce bataille, s'étaient glissés dans la galerie, creusée par le plus formidable des fagots. Soudain, un coup de feu éclata dans la nuit. Tous sursautèrent. Et M. Désiré, qui aidait à l'ordinaire Pernambouc, le bourreau du bagne, pour une boîte de sardines ou un paquet de caporal supérieur, souffla à l'oreille de Pallas. « T'as entendu? On joue au pruneau, pas bien loin de la côte. Chéri Bibi a bien pu trinquer. C'est pas encore cette sorgue, cette nuit, qu'il te sauvera. Prends garde que l'as de carreau apprenne que t'étais de mèche avec Chéri Bibi. Il y a du gros temps pour la chiourme. Je te dis qu'ils finiront par me donner ta cabèche. Ta tête. » Et il ajouta avec son rire ignoble, « Tu sais, ce ne sera pas de refus. Je n'ai déjà plus de tabac. J'ai tout donné aux potes. Monsieur Désiré a bon cœur. » On entendit soudain le galop des patrouilles et une voix au lointain cria « On a la peau de Chéri Bibi !» Pallas pleurait. Disons tout de suite, Carigonde, Fric-Frac, le Caïd et le Bêcheur, après s'être glissés dans le trou de Chéri Bibi, en étaient sortis sans encombre. « Compliment à Chéri Bibi !» exprima le Bêcheur en humant l'air frais de la nuit. « Sa mère, en le mettant au monde, a dû penser à une taupe. « Ta gueule, et trottons-nous !» commanda Fric-Frac. « Chéri Bibi ne va pas tarder à chercher des nouvelles de Pallas. Attention à manœuvrer !» Ils suivirent les rochers en bordure de mer. Les vagues, par instants, les mouillaient jusqu'aux genoux. « Halte !» commanda tout à coup Arigande. « Merci pour le bain de pied !» grogna le Bêcheur. « Moi, toujours content, jamais malade, jamais mouri !» susurra le Caïd. « Si nous faisons un pas de plus, Chéri Bibi peut nous apercevoir !» déclara Arigande. Maintenant, le Parisien et sa bande ne bougeaient plus. Ils avaient aperçu la tête de Chéri Bibi, qui se haussait prudemment au-dessus du bordage de la chaloupe, dans le dessein évident d'explorer les environs. Ce que les 4 bandits avaient prévu arriva. Ne comprenant point pourquoi Pallas se faisait tant attendre, Chéri Bibi, très inquiet, se résolut à refaire le chemin déjà accompli et à se rendre compte par lui-même des causes de ce retard. Arigonde et ses 3 acolytes le virent sortir de sa chaloupe et ramper sur le môle, ne se déplaçant qu'avec les plus grandes précautions et s'arrêtant pour écouter si le silence de la nuit n'était troublé d'aucun bruit suspect. Ainsi gagna-t-il la grève. Nous avons dit que là, il était facile de se cacher, en raison de la grande accumulation de rochers dont la plage est couverte. Il n'en est point de même de la rive qui se trouve en face de Gourou et du continent. Celle-ci est plate et toute nue. Chéri Bibi, bien gardé par les rochers, continua donc son chemin sans encombre. Mais aussi, à cause des rochers, il n'aperçut point les 4 fuyards qui n'étaient pas à 10 mètres de lui. Quand il se fut enfoncé dans l'ombre, les bandits rampèrent à leur tour sur le môle et de là se jetèrent dans la chaloupe. Ce fut vite fait, mais ils n'y étaient pas plus tôt installés que Fric-Frac donna l'éveil. Chéri Bibi revenait. Ils se dissimulèrent tous 4 sous le rouf, ne respirant plus, dans l'attente de ce qui allait se passer. Pourquoi Chéri Bibi revenait-il et si vite?
Se doutait-il de quelque chose? Le redoutable ami de Pallas leur inspirait une telle terreur qu'ils avaient peur de son ombre comme des enfants qui, traversant la forêt la nuit, ont peur du loup-garou. Il n'était pas armé. Chéribibi devait l'être. Et même s'il ne l'était pas, ils n'auraient pas pesé lourd tous les quatre entre ses énormes pattes. Enfin, ils savaient que certains avaient payé de leur vie l'imagination qu'ils avaient eue de se mettre en travers de ses projets. C'était là bien des raisons pour qu'ils se tinssent tranquilles. Mais que pouvait bien faire Chéribibi? On ne l'apercevait plus. Il avait disparu derrière la machine. Bientôt, cependant, ils le virent se relever et s'éloigner à nouveau avec les mêmes précautions que la première fois. Quand il eut disparu, Frick Frack, qui avait été mécanicien dans sa jeunesse, souffla.
« À Grèce ! Vite, vous autres, faites sauter les cadenas des chaînes !»
Ses trois compagnons s'y employaient déjà quand un affreux blasphème de Frick Frack les fit se retourner.
« 22 ! Chéribibi a remporté la pièce du moteur !»«
Plus rien à faire, nous sommes flambés !» gémit le bêcheur consterné, et il arrêta le caïd, qui, d'une forte poigne, continuait de tirer sur le cadenas.
« C'est donc ça qu'il est revenu, le faux frère !» gronda le Parisien.
« Écoutez, il faut en prendre son parti et se pagnoter sous le rouf. Quand il va revenir avec Pallas, il y a des chances pour qu'ils ne s'aperçoivent de rien. Ils fileront sur le continent. Quand ils auront accosté, nous sauterons derrière eux. Et s'ils nous pigent en route, je ne pense pas qu'ils perdent leur temps à nous ramener au pré. Il y a du bon. Faisons les morts. » Pendant ce temps, Chéribibi continuait son chemin vers l'ouverture de son souterrain. Il se glissait sur la terre avec sa souplesse de grand fauve. Soudain, il s'arrêta. Il avait entendu des voix. Et bientôt, il aperçut les silhouettes de l'officier de surveillance et du commandant de l'administration pénitentiaire. Après dîner, ces messieurs faisaient un petit tour. Ils avaient allumé des cigares et parlaient stratégie. Les événements foudroyants de la guerre les passionnaient à ce point que, s'étant arrêtés pour discuter de la retraite ordonnée par Joffre et de la situation de Sarail à Verdun et de Castelnau à Nancy, ils restèrent là, près d'un quart d'heure, sans que Chéribibi pût faire un mouvement. Fatalitas, la route était barrée. D'abord, très inquiet de ne pas voir venir Pallas, Chéribibi redoutait maintenant de le voir sortir de l'orifice du souterrain, ce qu'il ne pouvait faire dans le moment sans attirer l'attention des deux chefs. Et le temps passait, et il pouvait survenir tel événement qui ruinerait de fond en comble un plan si laborieusement établi. Or, justement, voilà que Chéribibi se prit à frissonner de la tête aux pieds. Chéribibi frissonnait rarement, mais il voyait arriver une chose terrible. Un chien énorme, un véritable molosse, chargé lui aussi de la surveillance, accourait droit sur lui. « Tiens, dit le commandant, voilà Tarasque qui fait sa petite tournée. Ici, Tarasque !» Mais la bête, au lieu de se diriger vers le commandant, continuait son chemin sur Chéribibi. Le bandit la vit venir à lui avec une angoisse indicible. Chose singulière, Tarasque ne donnait pas de la voix. Aussi, sans plus s'en préoccuper pour le moment, les deux officiers continuaient-ils à discuter leur plan stratégique. Ils ne se doutaient point qu'à 10 pas d'eux se déroulait un drame farouche. Tarasque était un ami de Chéribibi. Comment cette affection était-elle née entre le molosse et l'homme? Ils s'étaient aimés tout de suite, à leur première rencontre. Ce monstre de chien avait-il deviné un frère dans ce monstre d'homme? Leurs mufles, à tous deux, avaient du reste plus d'une ressemblance, et leurs instincts de carnage étaient faits pour s'entendre. Toujours est-il que Tarasque, qui n'avait que des crocs pour le menu frottin des bagnards, avait une langue pour lécher les mains de Chéri Bibi chaque fois qu'il le pouvait. Ceux qui ont pénétré dans la première aventure de Chéri Bibi et qui savent quel singulier trésor de tendresse cachait le cœur de ce grand criminel maudit du destin comprendront l'attachement que pouvait avoir le forçat pour cette bête qui le caressait. Eh bien, dans le moment, ses caresses allaient le perdre d'une façon aussi terrible que l'eût été l'attaque la plus forcenée, et du même coup, perdre Pallas. Chéri Bibi aimait Tarasque, mais il avait promis à Pallas la liberté. Encore quelques secondes de ces démonstrations amicales, et les deux officiers, mis en éveil, seraient sur la bête et sur Chéri Bibi. Celui-ci, qui avait mis la tête de Tarasque sous son bras, fouilla avec l'autre main dans sa poche et y prit un couteau tout ouvert. Il s'agissait de tuer la bête de telle sorte qu'elle tomba foudroyée. Le cœur de Chéri Bibi agonisait. Il avait tué bien du monde dans sa vie, et cela par suite d'événements qui lui paraissaient inéluctables. Et il en avait eu bien de la peine. Mais jamais encore il n'avait eu tant d'horreur pour son métier d'assassin. Il embrassa la bête, et la bête l'embrassa. Et pendant ce baiser formidable, la pointe aiguë et sûre de Chéri Bibi entrait dans la gorge de Tarasque et la lui tranchait d'un seul coup, sans avoir à revenir dans la blessure, comme on dit dans le jargon de boucherie. Or, Chéri Bibi avait été garçon boucher dans sa prime jeunesse. Il connaissait son affaire. Il l'avait prouvé depuis, hélas, et de toutes les manières. Il savait tuer proprement. La bête eut un long et affreux soupir et expira en inondant Chéri Bibi de son sang. Fatalitas ! Gémit en lui-même Chéri Bibi. Et cette minute affreuse fut inscrite parmi les plus atroces de son atroce vie.
« C'est singulier !» exprima le commandant. « Qu'est-ce que peut avoir Tarasque à soupirer ainsi ? Tarasque ! Viens ici ! Tarasque !»
Voyant que Tarasque n'arrivait pas, les deux hommes se levèrent très intrigués. Ils s'en furent au roc, derrière lequel ils l'avaient vu disparaître, et ils trouvèrent la bête étendue sur le sol.
« Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est malade ? Tarasque ! Tarasque ! »
Ils se penchèrent. La bête était encore toute chaude. Soudain, le lieutenant se releva en jurant et secouant sa main pleine de sang. Il avait enfoncé sa main dans la gorge de Tarasque. On avait coupé la gorge du chien. Le commandant jura à son tour. La chose était inimaginable. On n'avait rien vu, rien entendu. Ça ne pouvait être que le coup d'un fagot évadé. Il donna immédiatement l'alarme en déchargeant en l'air son revolver. Une patrouille qui passait le long de la grève accourut. Et maintenant, pour comprendre ce qui va se passer, il faut se rendre un compte approximatif de la disposition et de l'aspect général des lieux. Les îles du Salut sont séparées les unes des autres par des détroits de quelques centaines de mètres. Elles possèdent une rade sûre où mouillent les plus grands navires. Le paquebot de la compagnie transatlantique, qui est chargé du service normal entre la Martinique et la Guyane, y fait escale à l'aller comme au retour. L'effectif du pénitencier est très considérable. Les îles, en effet, servent de dépôt, et les transportés y séjournent un certain temps avant leur classification, répartition et immatriculation. C'est à l'île Royale que sont installés le commandant et les différents services administratifs, ainsi que les magasins d'approvisionnement, plus un immense hôpital sur lequel sont évacués les condamnés malades des établissements pénitentiaires de Cayenne, de Saint-Laurent et des exploitations forestières.
C'est également dans cette île que sont organisés les ateliers de couture, cordonnerie, chapellerie, effets à l'usage des transportés. Enfin, nous avons dit que la difficulté des évasions et la possibilité du maintien d'une discipline plus sévère font de l'île Royale le pénitencier de répression pour les incorrigibles ou les bandits célèbres. Il y existe encore une briqueterie. Près de l'extrémité ouest, sur l'hôpital, est allumé un phare à feu fixe, visible à plus de 30 kilomètres. On aperçoit et l'on reconnaît de loin les îles parce qu'elles sont élevées. L'île Royale est la plus haute, 60 mètres d'altitude. Du côté du continent, elle se présente en forme de pain de sucre irrégulier. Mais revenons à Chéri Bibi, dont la situation était des plus mauvaises. Il avait pu rétrograder sans être aperçu, mais pour regagner son trou, il lui fallait traverser un espace découvert où il lui était impossible de se dissimuler. D'autre part, il ne pouvait rester où il se trouvait, à 20 pas du cadavre du chien, derrière un gros rocher suspendu où les artoupans l'auraient bientôt trouvé. Ceux-ci étaient accourus à l'appel du commandant. Chéri Bibi entendit l'un d'eux qui disait « Il y a du gros temps dans la chourme depuis hier. Le bruit court carigonde à les filets. » Mais déjà un sous-corne remplissait de ses imprécations la nuit sonore. On lui avait tué son chien, son Tarasque. Ce ne pouvait être que Chéri Bibi qui avait fait le coup. Tarasque ne se laissait jamais approcher que de Chéri Bibi. À la nouvelle que Chéri Bibi s'était évadé, ou du moins tentait de s'évader, et courait librement dans l'île, les artoupans commencèrent à perdre la tête. Les évasions du forçat étaient si célèbres et avaient été souvent accompagnées d'événements si incroyables qu'ils ne pouvaient, à cette idée, conserver leur sang-froid. Il fallait avertir la garde, mettre toute la garnison sur les dents. Le commandant et le lieutenant les arrêtèrent. Chéri Bibi ne pouvait être loin. Il venait de tuer cette bête à quelques pas de l'endroit où il se trouvait. Cet endroit était découvert. Le bandit n'aurait pu le traverser sans qu'il s'en fût aperçu. Et logiquement, le commandant s'avança vers la pierre qui cachait Chéri Bibi. Celui-ci était en train de songer « Vais-je me laisser accrocher ? Me livrer maintenant, quitte à recommencer une autre fois ?» Il balança une seconde à cause des difficultés formidables et imprévues qui se dressaient tout à coup devant lui. Et puis, l'accumulation même de ces difficultés tenta ce cœur diabolique. Il pensait aussi qu'on ne réussit pas une autre fois un coup raté, qu'il lui faudrait retrouver autre chose, recommencer un plan, que ce serait long, qu'il serait mis au cachot pour de longs mois, que l'on découvrirait son souterrain, et que peut-être le truc de la chaloupe ne serait plus possible. Enfin, il avait donné sa parole d'honneur à Pallas. Et quand Chéri Bibi avait donné sa parole d'honneur, il n'y avait pas d'exemple qu'il ne l'eût tenu à fond, pour le bien ou pour le mal. Deux termes entre lesquels il se promenait depuis si longtemps le couteau à la main qu'il n'en distinguait point toujours d'une façon bien nette la différence. Eh bien, cette fois encore, il vaincrait donc, ou il y laisserait sa réputation avec sa peau. Le commandant avançait toujours. Il allait le découvrir. La minute était décisive pour le bandit. Il ne pouvait être sauvé que par quelques surprises et par un effort prodigieux. Cette roche surplombait une sorte de talus au pied duquel le groupe venait de parvenir. Chéri Bibi, depuis un instant, s'était arc-bouté et, silencieusement, dépensait une énergie formidable. Tout à coup, la roche, arrachée à son lit de glaise, bascula et roula sur les artoupans. Ceux-ci poussèrent des cris horribles, quelques-uns d'entre eux furent grièvement blessés. Le commandant et le lieutenant n'avaient eu que juste le temps de se jeter de côté. Profitant du désarroi, Chéri-Bibi avait fait un bond dans la nuit. Il fuyait du côté du bois. Tous les gardes qui restaient valides se précipitèrent sur ses traces. Au moment où il allait leur échapper, en sautant d'un talus garni de hauts bambous, il aperçut tout à coup, au-dessous de lui, un artoupan qui le visait. Il n'eut même pas le temps de se baisser. Le coup partit et Chéri-Bibi tomba d'un bloc, écrasant les branches sous son poids énorme de géant foudroyé. Une immense clameur salua ce coup bien placé. « Chéri-Bibi est mort !»